Voici un cours de lettres modernes fait par M. Alain Meyer, unité d'enseignement F2 115A, la communication avec les morts.
La descente aux enfers et le voyage accompli par un héros vivant qui parvient à franchir le seuil du pays des morts et aussi à en revenir. Pour réussir ce double exploit, le courage, la volonté ne suffisent pas. Le voyageur qui entre vivant dans l'au-delà ne peut, dans la tradition gréco-latine et médiévale, s'y introduire par force, par effraction. Il a besoin d'un guide qui le prenne par la main, qui lui indique la marche à suivre pour écarter les embûches, qui le conduise doucement, comme on glisse à travers les songes, en jalonnant son chemin des repères d'une initiation graduée. Tel est le rôle de la Sibylle de Cumes dans l'Énéide, de Virgile relayé par Béatrice dans la Divine Comédie. Ces initiateurs et initiatrices jouent le même rôle pour le héros vivant que le dieu Hermès, conducteur des âmes, pour les morts. Comme Hermès, ils enseignent que le périlleux voyage s'effectue par étapes nécessairement progressives. Hermès, si on le compare à d'autres dieux de mythologie plus frustes et brutales, correspond à une formation mentale élaborée. Ce n'est pas le dieu germanique Wotan, lui aussi pourtant éternel voyageur. Wotan, le dieu borgne de la tempête et de l'errance, accompagné de corbeaux à la lueur des éclairs, Wotan, le dieu sans trêve ni repos, dans son agitation brouillonne, destructrice et vaine, Wotan, le dieu dément. Non, Hermès est pour sa part un dieu à la démarche ailée et légère, un dieu policé. Lui connaît l'itinéraire, il n'erre pas, il mène serein, apaisant, d'un glissement fluide et sûr, le néophyte aux révélations et à la sagesse. À la fin des fins, c'est à la réflexivité qu'il introduit, à la conscience de soi. Par l'intermédiaire d'Hermès, le néophyte découvre les ultimes secrets à l'intérieur de soi-même. Dans sa pérégrination à travers le pays des morts, ce que trouve le héros, c'est merveille des merveilles, lui-même. Au XIXe et XXe siècle, les explorateurs vivants des territoires des morts ne peuvent plus compter sur un initiateur. C'est qu'ils ne disposent plus de valeurs supérieures auxquelles, en toute certitude, ils puissent se référer. Les dieux sont morts et Dieu se cache. L'univers est dans la nuit. Dans un monde où la transcendance se dérobe, les héros cherchent, dans la crainte et le tremblement, où il se fit présomptueusement à leur propre force. La figure prépondérante du milieu du XIXe siècle, ce n'est plus le serein et énigmatique Hermès, c'est le rude et volontaire Prométhée, celui qui a dérobé la foudre céleste par la ruse et par la force. Aussi, les descentes aux enfers du XIXe siècle sont-elles le plus souvent infiniment plus tendues que celles de leurs devanciers. Elles se vivent sur le mode du drame, et le plus souvent aussi, elles courent à l'échec. Écoutez la confession de Nerval dans les premières lignes d'Aurélia. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui séparent du monde invisible. Je vais essayer de transcrire les impressions d'une longue maladie qui s'est passée tout entière dans les mystères de mon esprit. Et je ne sais pourquoi je me sers de ce terme maladie, car jamais, quant à ce qui est de moi-même, je ne me suis senti mieux portant. Parfois, je croyais ma force et mon activité doublée. Il me semblait tout savoir, tout comprendre. L'imagination m'apportait des délices infinis. En recouvrant ce que les hommes appellent la raison, faudra-t-il regretter de les avoir perdus ? Le doux Gérard lui-même à tenter de percer les portes de l'au-delà par la force et l'activité. Il a connu l'illusion de la toute-puissance et de l'omniscience. Gérard vit à l'époque des voleurs de feu. Si en définitive cette période d'exaltation confuse lui apparaît comme une maladie, si Gérard n'a pu atteindre cette harmonie, cet accord avec soi-même où conduit Hermès, c'est parce que son initiation est restée chaotique et manquée, faute d'un guide, faute d'un maître. Il s'est aventuré de l'autre côté, seul. Son esprit n'a pu résister à ce choc. Il s'est éparpillé, défait. Il a sombré dans l'échec irrémédiable. À l'image de la catastrophique Odyssée de Nerval, les descentes aux enfers des 19e et 20e siècles sont presque toujours des initiations manquées. Soit parce qu'à l'exemple de Prométhée, les héros ont voulu forcer l'accès du territoire interdit. Le voyageur du film de Murnau, Nosferatu le vampire, ne prend pas garde à l'écriteau au bord de la rivière. Ici commence le pays des fantômes. Il transgresse le seuil. Puis, ainsi que le dit l'intertitre qui fit tant rêver André Breton, lorsqu'il eut franchi le pont, les spectres vinrent à sa rencontre. Ce que les aventuriers de l'au-delà tentaient au milieu du XIXe siècle de conquérir sur le modèle de Prométhée, les esthètes et magiciens de la fin du même siècle essaient de l'éprouver en entrant dans la danse de Dionysos. Mais Dionysos, s'il est comme Hermès, lui aussi un dieu du monde souterrain et des morts, est le dieu des transes et des extases, alors qu'Hermès, plus insinuant et modeste, prend doucement et simplement le néophyte par la main et sa tâche accomplie s'efface. Dionysos, bouillonnant, instable, pêche par démesure et excès. L'intensité se substitue par lui à la vérité. Mais les réveils sont amers, tels les réveils de Mescal, du consul Firmin, dans cette divine comédie ivre qu'est selon Maurice Blanchot au-dessous du volcan de Malcolm Lowry. Hermès l'intercesseur, auquel se sont longtemps substitués Prométhée et Dionysos, a peu à peu cessé de frayer les chemins de l'autre monde. Aussi les représentations du pays des morts sont-elles tantôt liées à l'épouvante, à la folie, tantôt au vide, à l'inanité. Une comédie telle qu'au grand large, de Sutton Vane, S-U-T-O-N-V-A-N-E, a pour cadre un transatlantique dont les passagers se rendent peu à peu compte qu'ils sont des morts en partance vers l'au-delà. Le barman suicidé, refoulé sans cesse par les polices des deux rives, y est condamné à un aller-retour éternel entre les deux mondes, sans jamais pouvoir toucher terre. Ou bien encore, un train s'est arrêté au milieu de la plaine de Flandre, recouverte d'un grand silence de neige, dans le film d'André Delvaux, Un soir un train. Trois personnages, un quadragénaire interprété par Yves Menton, accompagné du jeune homme qu'il a été et du vieil homme qu'il sera, pénètrent dans un village désert où ils ne perçoivent que la rumeur d'une musique des années 40, stridente et lancinante, qui sort du fond d'un café. Là, une femme très belle et impassible entraîne Montan dans une danse de plus en plus dégingandée et folle. Montan est pris de vertige et se réveille brusquement. Toute l'histoire n'était qu'un rêve qui a duré le temps des quelques secondes d'un accident. La compagne de Montan a été tuée dans le choc. Et la danseuse du rêve était la messagère de la mort, celle qui a révélé la mort de l'être aimé. Autant dire que le voyage dans l'autre monde n'épouse plus la démarche solennelle et continue de jadis. Il se déroule suivant un rythme souvent désarticulé et syncopé. C'est que l'itinéraire vers l'au-delà passe par des à-coups, des dérèglements. Le romancier de langue allemande, Franz Werfel, W-E-R-F-E-L, Werfel, dont son livre d'anticipation « L'étoile de ceux qui ne sont pas nés » paru en 1945, nous fait descendre dans des enfers où le cours prévu des événements se détraque, où l'imprévisible surgit, où d'innombrables ratages viennent perturber le cérémonial de l'entrée solennelle au pays des morts. Figurez-vous qu'en l'an 100 000 de notre ère, la longévité des humains s'est allongée et que, parvenus à l'âge de 300 ans, ils choisissent volontairement de s'effacer en absorbant une potion qui leur permet de mourir sans souffrance et en douceur, en refaisant à rebours le chemin de l'évolution des êtres vivants. Tour à tour, ils redeviennent enfants, fœtus, parcourent le règne animal, le règne végétal, et les morts, au lieu de se décomposer dans la terre, refleurissent en une immense prairie de marguerites. Fort bien. Mais ce que l'on avait oublié de leur dire, c'est que parfois, c'est que souvent, l'opération s'arrête à mi-chemin. « Je vis, écrivait Herfel, de petits hommes porcs, roses, au nez en groin, aux mains et pieds fourchus, qui se traînaient péniblement dans les flaques du fossé grâce à un faible reste de vie. Je vis des salamandres humaines, des êtres aux longues queues, aux têtes d'embryons humains qui essayaient d'escalader les parois du fossé, mais retombaient, frappés d'une faiblesse mortelle. Plus répugnante encore, des gnomes à tête humaine, mais fixés au sol par des racines, tels des navets verdissants, hurlent, eux qui étaient si polissés de leur vivant, d'énormes obscénités. Ces navets verdissants, cancanant de fureur, étaient de petits vieillards enragés qui essayaient de s'arracher du sol dans lequel ils étaient enracinés. Nous voilà bien loin des ombres sereines qui glissent dans la lumière bleutée des Champs-Élysées de l'Orphée de Gluck, mais plutôt dans une sorte de cauchemar grotesque, semblable aux visions infernales de Jérôme Bosch. Dans l'au-delà, tout est possible, y compris la dérision et l'horreur. Dans beaucoup d'autres œuvres modernes, les morts ont gardé leur apparence terrestre et humaine. Mais ils sont fixés une fois pour toutes dans leur apparence immuable, ils ressassent sans fin leur vie passée, ils sont incapables, si peu que ce soit, de se renouveler. L'au-delà, dans la pièce récente de Max Frisch, Triptyque, n'est pas un lieu de supplice, mais une prairie vague où les morts rabâchent leurs souvenirs. Les damnés de Sartre ne subissent pas de torture, mais sont voués dans une chambre d'hôtel impersonnelle à se subir les uns les autres dans leur éternel huis clos. Le destin des morts est de rester pétrifiés dans la fixité au point de non-retour et sans aucune perspective d'évolution. Pourquoi les morts sont-ils ainsi fossilisés? C'est parce qu'ils ne sont plus libres. Ils sont régis par des règles incompréhensibles, par une loi avec une majuscule arbitraire et incommensurable à l'homme. Les héros vivants, à leur retour du sombre royaume, retirés jadis de leur périple des enseignements. Aîné avait, en rencontrant dans l'Hadès son père Anchise, eu la vision de l'avenir de sa postérité, reçu l'illumination de la grandeur future de Rome, et il était revenu raffermi dans sa détermination et convaincu que c'était en Italie qu'enfin les Troyens errants trouveraient un asile. Dante, dans sa traversée de l'enfer, du purgatoire et du paradis, est conforté dans sa foi et convaincu davantage encore de la toute-puissance de la justice divine, si rigoureuse soit-elle. Avant l'intercession de Virgile et de Béatrice, il passait par une phase de découragement et d'incertitude, celle que les mystiques appellent la nuit obscure de l'âme. Le voilà au retour, prêt à se battre contre l'iniquité et résolu à lutter pour le règne de Dieu. Les voyageurs de l'au-delà du XXe siècle, en revanche, que découvrent-ils? Un univers que l'on pourrait qualifier de kafkéen, même si Kafka lui-même n'a jamais, à ma connaissance, relaté explicitement un voyage au pays des morts. Rappelez-vous la dernière séquence du film Orphée de Cocteau. Maria Cazares, la princesse de la mort, et François Perrier, l'ange Heurtebise, s'éloigne de nous lentement, hiératique, encadré de deux motards tout de noir vêtus, et se dirige vers un paysage de ruines. Qu'est-ce qui nous attend là-bas ? Demande la princesse. Je n'en sais rien, répond Heurtebise, mais je sais que ce n'est pas drôle. Dans un roman allemand de 1947, La ville au-delà du fleuve, dont l'auteur se nomme Hermann Kasack, K-A-S-A-C-K, un historien franchit un pont de chemin de fer au-dessus d'un fleuve, l'Achéron bien sûr, et il arrive dans la gare d'une ville bombardée, comme celle de l'Europe de la Deuxième Guerre mondiale. Il y rencontre successivement, tel aîné, son père, un ami mort, une femme aimée perdue de vue qui porte un pansement au poignet et dont il apprendra par la suite qu'elle s'est ouvert les veines à cause de lui. À la différence des enfers d'Homère, de Virgile ou de Dante, la ville n'est pas plongée dans le noir, mais elle étend ses pans de murs ruinés sous un ciel bleu dur, immuable, cruellement bleu, dont jamais la lumière ne varie, où jamais un nuage n'introduit le changement et la diversité. L'historien apprendra ce qu'on attend de lui dans la ville au-delà du fleuve. Il est chargé par les instances suprêmes de la ville de relater minutieusement en chroniqueur, en archiviste, les faits et gestes des morts, mais sans le moindre pouvoir d'intervenir dans leur destinée close. Il apprendra que tous les matins à l'Est, une partie des morts produit dans une usine concentrationnaire des objets dont ils ne savent pas que le soir, dans le quartier Ouest, une autre équipe de morts va les détruire de fond en comble. Le travail de Sisyphe est devenu taylorisé et collectif. L'existence de ces morts est précaire, éphémère. Ils sont parqués un temps dans cette ville comme dans un camp de transit, de plus en plus fragiles et impalpables, car ils n'ont de consistance que dans la mesure où des vivants se souviennent d'eux. Leur deuxième existence représente un temps de sursis avant un anéantissement, celui-là définitif. Or, à la fin du roman, la gare ne désemplit pas de convois de jeunes morts, car la guerre sévit dans le mort des vivants. Il faut leur faire de la place. Les morts les plus anciens sont raflés en camions et relégués toujours plus loin dans la périphérie, toujours plus délabrée de la ville, si bien qu'un soir, tous ceux que le chroniqueur a aimés sont réunis dans une cabane en une ultime veillée. Là, dans leurs phrases familières, ils font un bilan de leurs deux existences, d'un ton empreint de dignité sereine, car à la différence de leur première mort terrestre, ils n'ont plus à redouter les souffrances physiques de l'arrachement. Et le lendemain matin, ils partiront dans un désert cendreux, en un long cortège d'ombres diaphanes, jusqu'à ce qu'à un moment, ils s'évanouissent dans l'air. Ainsi s'achève leur deuxième existence, et désormais, il n'y a plus personne pour les faire revivre, même dans le souvenir. Lorsque le chroniqueur repassera le fleuve, ce n'est pas un message d'espoir, ce n'est pas une prophétie de triomphe qu'il livrera aux vivants. Il ne pourra que les inciter à faire la paix entre eux, ainsi qu'à la piété, à la charité envers les morts. Que l'au-delà soit le lieu du détraquement et du ratage, celui de l'immobilité et du ressassement éternel, ou celui d'une loi aussi rigide qu'incompréhensible, dans tous les cas, dans l'imaginaire des œuvres du XXe siècle, il est le lieu de l'immaîtrisable, celui sur lequel la volonté humaine n'a pas de prise. Plus grave encore, la nouvelle naissance que l'initiation au temps de Virgile et de Dante réservée aux néophytes n'apparaît plus possible. Le cycle des morts et des renaissances est interrompu, et la passerelle qu'avaient lancée certains initiés entre les vivants et les morts est coupée. Pourtant, la représentation de l'au-delà ne se réduit pas à celle d'une existence larvaire ou absurde. Enjambant presque 3 millénaires de représentations mythiques des enfers, un certain nombre d'écrivains et de cinéastes reviennent à un imaginaire des relations des vivants et des morts, qui est celui des sociétés agraires archaïques, où les morts vivent non plus dans un royaume lointain, dans les profondeurs de la terre ou à l'extrémité des mers, mais en proximité des vivants, vraiment tout près d'eux. Les morts, dans la couche la plus ancienne des croyances, vivent dans l'espace même du groupe auquel ils appartiennent. Par exemple, en communauté dans les cimetières, non loin de la communauté des vivants, ou bien encore sur cette colline toute proche qui domine le village. Ils sont si proches de leur ancien séjour qu'en certaines circonstances, le jour des morts par exemple, dans beaucoup de sociétés rurales, ils ont quartier libre et viennent rendre visite aux vivants, parcourir en groupe les rues au milieu de la nuit ou franchir la porte de leur ancienne demeure. Plus se sont développées les sociétés, plus l'espace social des vivants s'est élargi, plus l'espace des morts s'est dilaté jusqu'à ce qu'il apparaisse aux antipodes du royaume des vivants. Plus l'activité humaine s'est étendue loin, plus la route du mort est longue. Ce qui me frappe dans un certain nombre d'œuvres des 19e et 20e siècles, c'est que cet espace, de nouveau, se rétrécit. Il se rétracte, comme si dans un univers de plus en plus insaisissable dans son étendue et sa complexité, la petite communauté familiale ou amicale, ou encore la communauté du terroir, apparaissait comme un refuge, un havre de paix, où l'on se tient chaud, vivants et morts mêlés. Car les revenants, à la différence de ceux qui hantent les traditions ancestrales, ne sont plus forcément animés de mauvaises intentions, ils ne cherchent plus forcément à culpabiliser les vivants ou à se venger d'eux. Leur présence chuchotante, raclante, riante, est souvent plus amusée et goguenarde que maléfique. Je sais bien que dans les nouvelles terrifiantes de Lovecraft, les premiers habitants du globe, ceux d'avant le déluge, les anciens, amorcent leur remontée des profondeurs pour subvertir et anéantir les humains. Mais très souvent aussi, ceux de l'au-delà apparaissent débonnaires et de bons conseils. Ainsi, dans un film suédois de Sjöström, S-J-O-S-T-R-O-M, tourné en 1918, La Voix des Ancêtres, un jeune paysan accablé de soucis multiples voit une échelle se dresser dans son champ. Il a gravi et se trouve au ciel où l'accueille son père avec sa grande barbe noble et compréhensive. Il écoute avec attention, partage ses préoccupations et emmène son fils consulter les ancêtres, tous aussi barbus et nobles, revêtus de leurs habits d'époque, de la tunique des Vikings à la blouse du XIXe siècle. Réunis en conseil de famille dans la même pièce, ils rechercheront ensemble comment aider leurs descendants qui, revenus sur terre, verra ses problèmes peu à peu résolus. Dans un film beaucoup plus récent, le film allemand Heimat, H-E-I-M-A-T, dont on pourrait traduire le titre par « Terre natale » ou « Le pays de chez nous », Heimat, film qui retrace sur le mode de la chronique réaliste intimiste l'histoire d'un village un peu retiré dans une région de plateaux et de collines entre Rhin et Moselle, Maria vient de mourir à l'âge de 82 ans. Dans le village même, tous ceux qu'elle a rencontrés et que nous avons rencontrés tout au long des 15 épisodes du film, ceux dont la mort nous était connue et inconnue, tous viennent la recevoir en un comité d'accueil, et une Maria de 25 ans, au meilleur de sa jeunesse et de sa beauté, évolue heureuse dans les retrouvailles des présences familières. C'est ainsi que, plus ou moins confusément, nos contemporains, d'après certaines enquêtes, se représentent l'au-delà. Non comme un lieu d'épreuve ou de révélation, non comme un lieu de châtiments ou de récompenses, mais comme le retour au foyer parmi ceux que l'on a connus et aimés. La symbiose entre les vivants et les morts qui cimentait les sociétés archaïques se trouve ainsi apparemment restaurée. Ce ne sont plus tant des vivants qui viennent pénétrer chez les morts, comme dans les mythes de la descente aux enfers, que des morts qui accueillent avec placidité et tendresse les morts plus récents ou des morts qui parfois viennent visiter les vivants. Cet imaginaire prend certes particulièrement corps dans des cultures à prédominance longtemps agraire, par exemple dans les œuvres d'écrivains et de cinéastes d'Europe du Nord ou d'Europe centrale, ou encore en Suisse, ainsi qu'en témoigne le film de Daniel Schmidt Violenta sur le thème de la visite des morts aux vivants le jour des morts. Le thème de la communion des vivants et des morts, de leur intercession réciproque par la prière et aussi par l'action, est très vivace de longue date dans la littérature polonaise. Le poète romantique polonais Adam Mickiewicz, M-I-C-K-I-E-W-I-C-Z, dans sa pièce « Les aïeux », met en scène la visite le jour des morts à des patriotes emprisonnés dans une geôle russe après la répression du soulèvement de 1830, de leurs ancêtres qui leur rendent courage et les incitent à la résistance. C'est le même Mickiewicz qui écrit « L'autre monde n'étant rien différent de celui-ci, croyez-moi, tout y est pareil. » L'homme, une fois mort, ne change pas d'endroit. Il demeure où son âme est attachée. Dans l'autre monde, tu vis au milieu des âmes que tu as connues ici-bas afin d'accomplir ce que tu avais entrepris sans l'avoir achevé sur terre. Le récent prix Nobel de littérature polonais Czesław Miłosz, C-Z-E-S-L-A-W, plus loin M-I-L-O-S-Z, dans sa chronique romanesque sur les bords de Lissa, I-2-S-A, nous affirme de son côté. L'âme de l'homme tourne longtemps autour de l'enveloppe qu'elle a abandonnée. Elle tourne et regarde ce qu'elle a été, s'étonnant de ne s'être pas connue jusqu'alors autrement que liée au corps. L'âme traînait par là, touchait les objets familiers, afin de pouvoir partir en paix, rassurée sur ce qui était bien, n'est-ce pas, sa propriété. Imaginaire de société rurale, direz-vous, bruissement de contes et de légendes, d'espaces reculés et de temps révolus. Mais ne voyons-nous pas, dans le film de science-fiction soviétique de Tarkovsky, Solaris, un vaisseau spatial échoué dans une lointaine planète et peuplé de la présence, pour chaque cosmonaute séparément, de la morte qu'il a le plus aimée. Et chez un poète aussi cosmopolite et citadin qu'Apollinaire, dans son poème « La maison des morts » recueillie dans Alcool, un cortège de morts va se joindre aux vivants pour un bal champêtre. Je vous attendrai 10 ans, 20 ans s'il le faut. Votre volonté sera la mienne. C'est ainsi que s'exprime un étudiant vivant à une morte. Je vous attendrai toute votre vie, répondait la morte. La coupure entre les morts et les vivants a-t-elle donc cessé d'être irrémédiable? A-t-elle surtout cessé d'être dramatique? Si les morts sont parmi nous et se promènent à travers les lieux familiers, est-il encore besoin de héros mythiques qui, durcis par l'épreuve au prix d'efforts inouïs, pénètrent dans les lointains enfers et en reviennent? Si les modèles prométhéens et dionysiaques ont, au cours du XIXe siècle, supplanté le récit initiatique d'Hermès, le recours au mythe peut-il survivre à la débâcle au XXe siècle de Prométhée et de Dionysos? Le mythe de la descente aux enfers a-t-il cours chez nos contemporains, ailleurs que dans les œuvres de quelques lettrés nourris de références culturelles de plus en plus estompées et effacées? Régression mentale, diront les esprits chagrins. Les grands mythes gréco-latins marquaient un affinement de la conscience par rapport aux frustes croyances aux esprits et aux revenants. Ils étaient l'expression de formations mentales plus complexes et élaborées. Ils exaltaient l'effort, la progression et permettaient d'approfondir la conscience de soi. Cette rencontre avec les morts immédiate, sans intermédiaire, s'obtiendrait quant à elle sans lutte, sans opposition assumée et surmontée. En dédramatisant la mort, la psyché contemporaine ne céderait-elle pas à la facilité? Ne marquerait-elle pas un affaiblissement du principe de réalité au profit du principe de plaisir, un recours puéril au magique, au dépens de l'affrontement des forces qui nous dépassent, condition de l'élargissement de notre champ de conscience, de la construction de notre personnalité, de la réalisation des possibles? Peut-être. Mais l'estompement du mythe héroïque de la descente aux enfers et du récit du cortège d'épreuves auquel se trouve confronté un héros solitaire n'a pas amené pour autant un appauvrissement de l'imaginaire, nous l'avons vu. Si le mythe de la descente aux enfers survit, c'est dans un registre moral, celui de la descente aux enfers personnel et intérieur, comme chez par exemple Malcolm Lowry. En revanche, moins ritualisé et ordonnancé que dans les siècles classiques, la communication avec les morts renoue avec un passé plus lointain où s'établissait une proximité, une familiarité entre les hommes et tout ce qui les entoure ou les dépasse. Les relations entre les vivants et les morts semblent de moins en moins codifiées en mythes et se disent de manière plus spontanée et imprévisible comme des légendes.
C'était un cours de lettres modernes fait par M. Alain Meyer, professeur à l'Université Paris-10-Nanterre.